Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci d'être là pour suivre l'émission Club de la Presse sur votre radio. Nous sommes au mardi 7 mai 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants dans le studio bleu de La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce deuxième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'Atevi sur la mise en onde de cette émission. Bien sûr, Jérôme Dakoucha est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Comme toujours, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires, notamment Radio Lumière à Nihor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoula Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Eric Pakoudzou. Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Je salue au passage nos collègues de Radio Lumière à Nero.
Voilà.
J'ai fait une émission avec eux pendant la campagne électorale. C'était très bien. Je voudrais leur dire vraiment merci. Sans oublier également nos collègues de Radio RTDS à Nero également.
Voilà.
Et Radio Mokpokpo à Fagnan.
Il y a beaucoup de radios, oui, RVV, oui, à Bougan, il y a beaucoup de radios quand même, oui, à l'intérieur, oui, du pays.
J'ai fait tout ce parcours-là.
Voilà.
Franchement, je leur dis merci au passage.
C'est intéressant, alors, de faire vraiment ce parcours.
Vraiment, vraiment.
Je vois vraiment votre sourire, alors, dans la 5e République, je dirais. Ça fait plaisir, alors, de voir ce sourire dans la 5e République. Sam Djobo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Eric, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de La Nouvelle Génération.
Je ne sais pas si je dois te dire bienvenue dans la 5e République.
Oui, je suis bien évidemment dans la 5e République.
On est à tous, hein.
Oui, oui. Et je profite pour dire un bonjour spécial, comme Eric me l'a rappelé, aux responsables de la radio Méridien à Sokodé, Radio Tchaoudjo aussi également, où j'ai pu, lors de mon séjour dans le cadre des élections, lorsque j'étais allé pour couvrir les élections, j'ai pu animer des émissions du genre du Club de la Presse, d'abord sur Radio Tchaoudjo et ensuite sur Radio Méridien. Et maintenant, de façon spéciale, on a improvisé une émission lors de cette période où on recevait pratiquement tous les candidats chaque soir de 20h à 21h. Et c'était moi-même, tu ne pouvais pas l'imaginer, qui jouait ton rôle Radio Méridien pendant toute la période de campagne où j'ai eu...
Mais ici, tu es invité.
Oui, ici, je suis invité, mais là-bas, je suis l'animateur vedette. Et j'ai eu l'honneur de recevoir toutes les listes de candidatures pour débattre, pour que chacun explique un peu son programme de société, son ambition pour Tchaoudjo, et puis comment ça va se passer. Parce que souvent, quand les gens sont élus, 5 ans, ils disparaissent et ils refont surface. Alors, de leur côté, qu'est-ce qu'il en était? C'était une émission très suivie qui passait aussi sur YouTube. Et je tiens à faire un coucou spécial aux responsables de ces deux médias.
D'accord. Et nous faisons un coucou spécial aussi au personnel alors de Central FM hein, qui relaie cette émission. Club de la presse à Sokodé dans le Tsaoudzo, bien sûr. Alors, chers confrères, j'aimerais qu'on parle d'abord de ce sujet, un sujet qui fait l'actualité et qui est sur... D'abord, les réseaux sociaux, nous avons vu cela. Il y a certaines presses également qui en ont parlé. Je veux bien parler alors de cette sanction infligée au proviseur du lycée d'Alokwebe. L'information a circulé beaucoup dans le week-end. Hier, on n'a pas pu alors discuter alors de cette information, surtout que nous avions eu même un invité hier. Eric, oui, c'est vrai que cette information, nous avons tous ensemble suivi cela. Et la raison donnée, c'est que l'intéressé, c'est-à-dire le proviseur d'Alokwebe, du lycée d'Alokwebe, a accordé une interview à la télévision TV5 Monde et a décrié un tout petit peu, a dénoncé l'état alors de l'établissement, hein, de leur établissement scolaire. Et finalement, cela lui a valu en quelque sorte son poste et son poste lui a été retiré. Il reste un enseignant, bien sûr, mais son poste de proviseur lui a été retiré. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, Eric?
Non, je pense que l'interview accordée par ce proviseur-là n'est pas nouveau et enfin, je parlais de l'interview, elle n'est pas nouvelle. Je voudrais dire que en réalité, le proviseur en question n'a fait que décrire hein, la situation de son établissement. Et donc, en réalité... Et TV5 Monde a approché les autorités de l'enseignement dans son secteur et on lui a demandé de réagir par rapport à ce qui se passe chez lui et il a parlé. Et je crois que dans le fonctionnement de l'administration, c'est que lorsque vous êtes aux affaires et que vous avez une telle situation, vous devrez forcément faire l'état des lieux à vos supérieurs pour que des solutions idoines soient apportées quand même à votre institution ou ce que vous êtes en train de gérer. Hein. Et donc, je crois que quand c'est fait hein, sans l'autorisation des supérieurs
de l'hiérarchie.
De la hiérarchie, on considère que c'est une faute administrative parce que vous avez des canaux pour relever quand même les manquements hein, et donc ils devraient passer forcément par cela. Et donc, au cas où personne ne réagirait, alors il sait aussi hein, tout le circuit qu'il doit faire pour que solution soit trouvée à la situation de son établissement scolaire. Et donc, l'argument avancé par l'autorité de l'enseignement primaire et secondaire, c'est qu'il n'a pas su garder quand même ce qu'on appelle le secret administratif avant de rendre publique cette information-là. Je crois que évidemment, il y a eu quand même... une délégation ou une commission hein, du ministère qui a circulé dans les établissements pour voir pour faire l'état des lieux et même il y a eu des décisions où des écoles ont été fermées comme le lycée de 2 février. Et donc c'est à ces proviseurs-là, à ces directeurs-là, de dire clairement ce qui ne va pas pour que les autorités puissent prendre
leurs responsabilités. D'accord. Sam, est-ce que ce n'est pas la liberté d'expression qui a reçu un coup chez ce proviseur?
Alors, moi, je pense que ce proviseur, tout ce qu'il dit n'est pas nouveau. Parce que je crois que c'est l'année dernière où il y a eu un bâtiment scolaire qui s'est effondré dans une localité un peu vers le centre du pays où il y avait des élèves qui ont perdu la vie. Donc, quand on se met dans ce contexte, on se dit que ce qu'il décrit n'est pas nouveau. Mais sauf que, au niveau du ministère de l'Éducation, Eric le disait, il y a eu un inventaire général de tous les bâtiments scolaires. ce qui a conduit à la fermeture de certains établissements. Et sûrement, ce qu'il est en train de décrire de son établissement doit avoir été relevé par la commission qui a sillonné. Maintenant, quand on est à la tête d'une structure comme un lycée, je crois qu'on ne se comporte pas comme un activiste. Parce qu'il y a les procédures quand on veut prendre la parole.
Non, mais il n'a que dit la réalité.
Oui, mais ça dit que c'est ce que je vous dis. Ça dit que vous êtes responsable de l'établissement. Ce n'est pas à un média qu'il faut s'adresser pour relever les manquements ou les difficultés auxquelles votre établissement est confronté. Vous avez une hiérarchie. Il y a le directeur régional de l'éducation. Il y a le ministère. Il y a des inspections. Je pense qu'il a... Il est parti
il a des
trop.
Directeurs centraux.
Des directeurs centraux. Il est allé trop vite à la besogne. Parce que c'est vrai, le média peut s'adresser à un proviseur, mais il lui revient à lui de ne pas s'exprimer. Parce qu'il y a une discipline quand même. On parle de l'administration. Et l'administration a une discipline à laquelle on doit se conformer quand on est responsable d'une structure. Peut-être que c'est un enseignant qui ne maîtrise pas tous les rouages qui aurait fait ça, qu'il aurait pu bénéficier d'une circonstance atténuante. Mais proviseur de son état, il est censé comprendre quand même qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire sans avoir l'autorisation de sa hiérarchie. Et moi, je pense que c'est sur ce plan qu'il a été sanctionné. Aujourd'hui, on le reverse dans le corps des enseignants. Peut-être que demain, personne ne sait, il peut rebondir pour avoir encore une structure, un lycée ou un établissement public à gérer, quitte à lui de prouver quand même que ça a été une erreur. Et après, quand on commet une erreur, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans l'administration, il doit adresser un courrier à qui de droit pour présenter ses excuses. Moi, je pense que c'est comme ça.
D'accord.
Ça.
Ali Le Grand, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour, chers confrères en studio, auditrices, auditeurs de la Belle Radio Canal FM.
Oui, nous sommes en train de parler alors de cette sanction qu'on a infligée à ce proviseur alors du lycée d'Alokwegbe. Et finalement, oui, c'est vrai, dans une intervention hier, le ministre Kokoloko, sur une radio, disait que, alors, en tant que responsable, proviseur d'un lycée, il est très important quand même qu'on ait le droit à la réserve. On ne doit pas quand même dire tout ce qu'on pense.
Oui, merci. Merci à toutes les autorités togolaises pour la liberté d'expression quand même qui est garantie. Nous-mêmes qui sommes ici en studio, il y a des choses que nous sommes appelés ou que nous disons des fois qu'on se retrouverait d'ici il y a 12 ans, 15 ans, que ce n'était pas possible. Pour revenir dans le contexte du proviseur en question qui est sanctionné, moi je dis que c'est la moindre des choses. Cette sanction, c'est une sanction bénie, si on peut le dire ainsi.
Si c'est une sanction bénie ?
Oui, bien sûr. Ça fait du bruit parce que justement, les médias en font le chou gras. Parce que dans ce pays même, il y a eu des ministres, des DG qui ont été relevés de leurs fonctions, sans justification. L'administration n'a pas besoin d'apporter la justification puisque l'autorité qui a nommé, par la ligne des formes oblige, c'est la même autorité qui vous a fait confiance, qui vous fait relever de votre confiance, de votre fonction à un moment donné. Maintenant, c'est le pouvoir discrétionnaire, mais ça peut arriver à la suite d'une faute. Si réellement c'est dans le sens d'une faute stricto sensu, il y a toute une procédure, c'est carrément notre régime, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Mais dans le cas d'espèce, je pense que le professeur Kokoloko agit plus dans son pouvoir discrétionnaire. Maintenant, l'opinion l'a obligé d'une manière ou d'une autre à venir s'expliquer. C'est ce qui a amené plus de débats. Vous allez constater lors du débat d'hier, par exemple, de l'émission d'hier sur la radio Victoire FM, il y a eu plus de discussions autour du sujet en ville, un peu partout, sur les plateformes. Et pourtant, ce n'est pas nouveau. Dans toute administration, même si c'est privé, qu'il s'agit d'administration publique ou privée, vous avez une obligation de réserve. À Canal FM, je suis employé à Canal FM, j'ai l'obligation quand même de ne pas pouvoir divulguer certaines choses lorsque je suis en train de causer, par exemple, avec Pascal. Parce que je ne suis pas du personnel de Canal FM. C'est pareil, si quelqu'un se retrouve de Finam ou bien du ministère de l'économie, il y a des choses qu'on ne doit pas pouvoir dire publiquement. Ce qui est palpable, que tout le monde voit, comme quelqu'un l'a déjà dit dans ce studio, je crois qu'il n'est pas en erreur par rapport à ce que tout le monde voit. Mais c'est ce que lui aussi l'a vu. Mais lui, quand même,
il a tout décrit la réalité.
Quand on est dans une maison, là où on mange, en tout cas, on ne met pas pied là.
Mais Pascal, il y a ce qu'on peut appeler les codes de bonne conduite. Même nous, dans la corporation, quand vous avez un partenariat avec une structure ou une société, vous n'êtes pas autorisé à dénoncer les carences ou les insuffisances de cette société. C'est-à-dire que vous êtes partenaire, on vous paye, et maintenant vous sortez, peut-être que c'est une société de distribution de Pio Atta, par exemple, et vous sortez et vous écrivez dans vos colonnes que le produit dont est distributrice cette société est de mauvaise qualité. Non, comprenez que le lendemain déjà on vous résilie le contrat.
Comme donc, quoi, la branche sur laquelle
on ne sait pas. Même vous-même qui êtes ici à Canal FM, supposons que toutes les fois que vous faites l'émission, la climatisation ne fonctionne pas et que vous faites interview dans une autre, sur une autre radio pour dénoncer ces carences, je suis sûr que le lendemain, votre directeur va vous virer.
Alors, je voudrais, Eric, en réalité,
oui. Le professeur Kokoloko a été tellement long dans l'explication, dans la clarté, dans la clarification de sa décision hier, il a été tellement long, si bien que ça a mené plus de débats même dans certaines écoles. Moi, j'ai eu des étudiants qui m'ont abordé à plusieurs reprises sur le sujet, parce que est-ce que réellement la sanction, c'était la faute? Derrière le pouvoir discrétionnaire, il y a cette idée de faute qui vient, qui amène des fois à relever certaines personnes de leurs fonctions. Mais c'est pour ça que l'autorité n'est pas contrainte de justifier ces genres de décisions. La preuve, l'arrêté qu'a pris le ministre Kokoloko, il n'y a pas eu de motif officiel. Si bien qu'au début, ça donnait beaucoup plus de supputation. Mais hier encore, il a été encore trop long, si bien qu'il y a un peu l'aspect faute et l'aspect pouvoir discrétionnaire qui était mélangé. Donc, dans certaines écoles scientifiques, je pense que ça avait créé plus de problèmes.
D'accord. Alors, Eric, je voudrais donner un exemple. Vous savez, on était tous là quand la société MOVE a repris les actions de Télécel. Et donc, après une année, l'autorité de régulation a sommé la société MOVE de payer des redevances parce qu'elle n'avait pas acheté de licence. Elle avait juste pris la licence de Télécel pour travailler. Alors, on avait demandé à la société MOVE de payer 20 milliards de francs CFA. Et j'étais en partenariat avec la société MOVE. Et au cours d'une émission, le Club de la Presse, j'étais avec deux confrères qui étaient également en partenariat avec la société MOVE et qui disaient que non, la société MOVE ne doit pas payer autant. Mais j'ai répondu en demandant, mais qu'est-ce que dit la loi? Si on se réfère à la loi, la société MOVE doit payer les 20 milliards. Écoutez, à la fin de l'émission, avant que je n'arrive au bureau, voilà la résignation de contrat qui m'attendait.
Ça fait cache, quoi.
Parfois, oui, pour avoir juste dit que MOVE doit payer. Tandis que ceux qui ont dit que MOVE ne doit pas payer autant ont gardé leur contrat avec la société MOVE.
D'accord.
Parfois, c'est difficile, mais il faut savoir raison garder.
Oui, c'est difficile, mais il faut savoir raison garder. Je suis d'accord avec vous, Eric. Mais ça, sur ce point, quand le journaliste ou la journaliste posait la question au proviseur, peut-être alors sur la réalité alors de l'établissement, qu'est-ce qu'il devait dire?
Non, déjà, vous êtes proviseur, vous êtes à la tête d'une structure comme un établissement scolaire. Quand on vous envoie un protocole pour répondre dans une interview ou dans une émission, il faut avoir le OK de la hiérarchie.
Mais il semble que le OK a été donné.
Par qui?
Par l'hiérarchie.
Ah, ça, c'est la parole du proviseur contre la parole du
proviseur. J'ai appris cela aussi.
Mais il faut esquiver. Il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Il n'est pas obligé de répondre.
C'est ce que je disais quand j'ai commencé, que on lui a demandé de réagir par rapport à ce que le journaliste cherchait comme information.
Tout à fait.
Mais là, ce qu'il pouvait faire, c'est de laisser le journaliste aller constater. Et maintenant, il réagit. Il dit, oui, effectivement, nous sommes en difficulté, mais nous souhaiterions quand même que l'autorité regarde ça de près par rapport à vos constats. Très simplement, je crois que c'est aux journalistes également. Parce que là, c'est le journaliste qui a mis ce proviseur-là en difficulté, sachant très bien qu'il n'est pas la personne autorisée à parler de cette situation de son établissement.
D'accord.
Mais en même temps, le journaliste, quand il va faire son interview, il y a les réponses que le journaliste recherche. Ouais. Le journaliste lui prend la partie qui l'intéresse.
Tout à fait.
Et donc, c'est à vous l'interviewer qui devrait savoir quelle réponse vous donner par rapport à l'état de l'établissement. Moi, je pense que comme il y a une commission qui a circulé et dont le proviseur en question devrait être au courant, il aurait pu avancer, évoquer ça. Il dit oui qu'il y a des débuts de solutions qui sont en train d'être trouvées, que peut-être que la sanction ne devrait pas être aussi forte.
Et il faut être peut-être à l'osage dans la réponse donnée, ou très prudent.
Non, là, mais la réponse il n'a pas été radié, c'est juste que c'est son statut de proviseur. Il est
et le professeur Kokoroko est allé loin pour préciser que c'est lui qui l'a nommé.
Ok, chers confrères, nous allons quitter le sujet. Nous parlons de notre sujet, et ce sujet quand même qui doit nous intéresser tous, hein, et qui nous intéresse tous bien sûr, et c'est-à-dire cette question alors des élections législatives et régionales. Nous savons que déjà le samedi dernier, les résultats des législatives ont été proclamés, des résultats provisoires bien sûr, et ces résultats nous apprennent alors que UNI a obtenu 108 sièges, et ADI 2 sièges, FDR 1 siège, ANC 1 siège et la DMP 1 siège, ce qui veut dire tout simplement que l'opposition en entier a retrouvé 5 sièges. Et aussi hier lundi, les résultats provisoires des régionales aussi sont tombés, et il y a UNI qui s'en sort avec 137 sièges, et l'opposition s'en sort avec 42. Ali Le Grand, vous avez suivi alors cela, ces résultats. Est-ce que vous avez été surpris?
Non, absolument, je vous dis tout de suite, non, moi je n'ai pas été surpris. Hein. Parce que l'actualité oblige, vous savez, pendant cette période de campagne, par rapport à ce que moi j'ai vu, en tout cas, je l'avais dit sur le plateau même, que sur le terrain a paru être beaucoup plus monocolore à la couleur du Parti Unir. Au moment des campagnes, partout où vous passez, quel que soit dans les plateaux, même à Lomé, dans le Grand Lomé ici, dans le fief de certains responsables de position, des endroits qu'on peut qualifier ainsi, on a vu que UNI carrément s'est accaparé de tout. C'est en tout cas une occupation, je dirais, totale du terrain de Lomé à Saint-Cassé, si bien que quand les résultats d'abord des législatives, des élections législatives ont été donnés, je me suis dit, en tout cas, ça retrace un peu ce que nous autres, nous avions vu sur le terrain. Mais dans le fond, je ne suis pas technicien à la CENI, soit membre de la CELI, d'une CELI quelconque. Et les résultats qui ont suivi par rapport au régional, je m'attendais à un truc pareil. Peut-être pas à un chiffre précis, mais 137, une majorité absolue, très confortable pour le parti au pouvoir. Je ne suis pas surpris. Et bon, je dis... Et ce qui est malheureux seulement dedans, c'est que l'opposition tend en réalité à disparaître. C'est ce que je pourrais dire. Si éventuellement, on ne s'interroge pas, on ne se remet pas en cause et se remettre au travail rapidement. Parce que quand vous analysez ces résultats, quand vous venez dans la région, dans le Grand Lomé précisément, à Cordovia, à Copé, bon, en tout cas, si UNI peut percer jusqu'à ce degré, je me dis quelque part, il y a un problème de confiance entre la population et certains partis d'opposition. Et en tout cas, une évolution en termes de confiance entre le parti au pouvoir et ces mêmes populations qui, hier, il y a quelques années, ne pouvaient pas unir, ne pouvaient pas aussi percer dans ces localités-là.
Eric, je vous livre un tout petit peu ce que les journaux ont écrit sur le sujet. Il y a Actu Express de Isidore Color qui écrit à la une, élection législative 2024, UNI s'adjuge 108 sièges sur les 113 résultats provisoires de la CENI. Le journal Liberté titre à sa une, élection législative et régionale calamiteuse, chronique d'une faillite électorale et démocratique sans précédent. La démocratie à l'envers au Togo, quand UNI célèbre la victoire des bourrages d'une. Score à la soviétique au Togo, la razzia gênante du président Gnassingbé. Et un autre journal, c'est Togo Matin. Le journal Togo Matin qui titre à sa une, législative et régionale, UNI a littéralement écrasé ses adversaires politiques. Double scrutin, toujours Togo Matin qui titre, double scrutin, la victoire d'UNI est d'abord celle de la nouvelle constitution. Alors, Eric, vous titrez aussi à la une de votre journal sur le sujet élection couplée 2024, les résultats provisoires des régionales sont aussi tombés. UNI Guinée, 137 sièges et opposition, 42. Alors, je vous pose la même question. Est-ce que vous avez été aussi surpris, enfin, vous avez été surpris alors par rapport à ces résultats donnés?
Non, pas du tout. Personne ne devait être surpris par rapport à ces résultats du moment où nous avons passé 2 semaines de campagne et on avait comme l'impression qu'il n'y avait qu'un seul parti sur le terrain. Et comme le disait tantôt un collègue ici avant l'émission, quand on travaille, on gagne les fruits de son travail. Mais est-ce que véritablement les gens ont travaillé sur le terrain? On a vu ce qui s'est passé pendant cette campagne électorale. Vous savez, il y a d'abord un problème fondamental, c'est que vous avez le même fief pour plusieurs partis d'opposition. On vous dit ici, Lomé, c'est notre fief. Mais il y a combien de partis qui se partagent le même fief? Ça, c'est un problème fondamental. La deuxième chose, c'est le maillage du territoire national. Alors, si vous avez un parti qui arrive à avoir des candidats sur toute l'étendue du territoire national, ça veut dire que vous aurez des campagnes sur toute l'étendue du territoire national. Alors, certains partis qu'on croirait avoir une assise nationale nous ont démontré à travers ces élections qu'en réalité, ils sont limités sur le territoire, géographiquement parlant, je veux dire. Et la troisième chose, c'est quoi le message qu'on a passé pendant cette campagne électorale? Pendant que UNIR essayait de dire nous sommes déjà sur le terrain, nous avons déjà fait quelque chose, nous vous présentons notre bilan et nous vous promettons de faire plus. Parce que en réalité, le problème des Togolais aujourd'hui, c'est la pauvreté. Quand on parle de pauvreté, c'est dans tous les sens. Pauvreté en termes d'alimentation, pauvreté en termes d'éducation, santé, et addiction d'eau, etc., etc. C'est-à-dire que les problèmes sont énormes. Ça, tout le monde le reconnaît. Mais quand vous prenez une semaine pour dire aux gens, nous ne sommes pas d'accord sur la constitution qui a été votée, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que vous venez nous offrir? Pendant que les autres disent, nous allons vous donner de l'eau, nous allons vous donner de l'électricité, nous allons vous faire manger, nous allons éduquer vos enfants. On vient parler d'autre chose, en s'attaquant au parti en face. Et surtout, après les élections de 2018, mais on avait comme l'impression que les partis d'opposition n'existaient plus. Il n'y avait plus d'activité politique. Et pour finir, je dirais ce score-là doit interroger tout le monde. Pourquoi? Parce que on a comme l'impression qu'il y a un désistement total de tout ce qui est politique. Vous savez, j'ai comme l'impression que les jeunes qui veulent aujourd'hui faire la politique désistent eux aussi parce que le message qu'on leur passe, c'est des situations antérieures à leur naissance. Ils ne s'y retrouvent pas. Ils se demandent, faire la politique, est-ce que c'est parler de ce qui s'est passé et ne pas avancer? Alors, je veux dire tout simplement que ce score-là nous interroge tous.
D'accord. Sam, pour toute l'opposition, pour les législatives, l'opposition obtient 5 sièges sur les 113. Alors, comment cela s'explique?
Non, moi je pense d'abord que ce scrutin, ce double scrutin que le Togo a connu le 29 avril dernier, appelle en moi trois analyses. Bon, une analyse à trois niveaux. D'abord, la percée de UNIR sur l'ensemble du pays, pour dire que le travail de UNIR a payé. Parce que, vous savez, au niveau du parti au pouvoir, même la constitution et la composition des listes pour ces candidatures-là, le président du parti était impliqué jusqu'à la dernière minute. Et vous allez vous rendre compte que sur l'ensemble du territoire, c'est la grosse artillerie qui a été déployée par le parti au pouvoir. Prenons par exemple le Grand Lomé, où vous avez en tête de UNIR un certain Germain Onah. Germain Onah, les gens le connaissent beaucoup plus dans un domaine donné, dans le domaine du sport.
Dans le football.
Dans le football, précisément.
Tout à fait.
Il est le responsable d'un grand média de la place. C'est quelqu'un qui a des jeunes autour de lui. Et UNIR décide de confier le destin de la liste à ce monsieur, qui va jusqu'à faire des percées dans les fiefs de l'opposition. Ali Le Grand parlait de Kodjo Yacopé. Donc ça veut dire que UNIR a mis les petits plats dans les grands. Quand vous prenez par exemple Kloto, vous avez professeur Dodi Kokoroko. Ce n'est pas quelqu'un de connu, ce n'est pas une image qui avait déjà fatigué les Togolais. Dans Kloto, les gens aspiraient à voir du nouveau. Ils ont vu de nouveau Kokoroko, il est revenu avec 4 sièges. Vous allez un peu dans la Binan, vous allez voir Sani Yaya. Vous arrivez peut-être dans le Tchaoudjou, vous avez Urosama, Mohamed. Ça dit que les gens avaient besoin d'un sang neuf et UNIR a su positionner des gens qui faisaient un peu l'unanimité autour de leur personne. Par contre, au niveau de l'opposition, vous allez voir qu'au moment où les autres sont pratiquement en pré-campagne, les gens étaient en train de parler de découpage électoral pour dire qu'il y a une... comment ils ont appelé ça? L'apartheid, oui. Au niveau de la répartition des sièges. Ils avançaient des arguments pour dire que là où eux considéraient comme leur fief, il fallait un certain nombre d'électeurs pour élire un député. Aujourd'hui, là où l'opposition considère comme étant son fief, UNIR a tout raflé là-bas. Kloto, Pélé, beaucoup de localités en tout cas, même dans le Grand Lomé. Sur les 8 sièges dans le Grand Lomé, UNIR a eu 5, l'opposition a eu 3. Et donc moi je pense que cette débâcle même est due à l'impréparation l'hésitation. Parce qu'au moment où la campagne a été lancée, il y avait le problème de la nouvelle constitution. Faut-il partir en campagne ou aborder la contestation contre la nouvelle constitution? Je crois qu'il y avait un avis un peu divergent au niveau de ces leaders de l'opposition. On a même vu le premier jour du lancement de la campagne, l'opposition avait déjà programmé une manifestation contre la nouvelle constitution. Donc, les électeurs, quand ça se passe comme ça, vous les démotivez. Vous allez même voir que dans le Grand Lomé,
le taux de participation
est relativement faible. Éric parlait de 5 ans depuis 2018, c'est comme si l'opposition était absente de l'échiquier politique. Effectivement, les électeurs, c'est des gens qu'on entretient régulièrement par des réunions, par des rencontres, par la sensibilisation. Et depuis 2018, il y a eu ce désert. En 2020, c'est vrai qu'il y a eu la DEMCA qui a essayé de ravir la vedette à ces partis traditionnels de l'opposition. Et aujourd'hui, c'est comme ce sort-là jeté par la DEMCA sur l'opposition est en train de continuer par s'abattre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que même le grand ANC, du haut de ses 30 et quelques députés de 2013, n'a même pas pu obtenir 2 députés. Ça pose un problème. Et moi, je pense que cette débâcle devrait reposer même la question de l'alternance au sommet de ces partis de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, au niveau de UNIR, vous allez voir que c'est du sang neuf. Les gens raisonnent beaucoup plus. La stratégie n'est pas la même que celle de 90. Mais au niveau de l'opposition traditionnelle, vous avez Jean-Pierre Favre, vous avez Paul Dodiapévo, vous avez Aimé Gogué, vous avez Madame Adjamagbo. Les acteurs de 90, c'est eux qui sont encore sur le terrain en train de se disputer les voix avec des jeunes qui ont du sang neuf, qui ont un nouveau dynamisme et qui ont une nouvelle approche de la politique. Et ça pose un problème. Moi, je pense que on peut quand même essayer de mettre des jeunes et être derrière pour donner toujours des conseils. Maintenant, le dernier niveau de mon analyse, c'est la désillusion des partis politiques de l'opposition parlementaire. Je veux parler de PDP, NET, MRC, Bâtir et puis UFC. Aujourd'hui, tous ces partis-là auquel les gens faisaient le procès d'être des buveurs de lait, entre guillemets, et d'être des gens qui...
Partis satellites.
Satellites. Aujourd'hui, je crois que ceux qui leur faisaient ce procès ont raison, parce qu'aucun de ces partis n'a même pas pu avoir un seul député. Et donc, ça veut dire que tout le Bataclan, tout le boucan qu'ils ont fait, toute la mandature, là, ça s'est tombé à l'eau. Et même le grand UFC de Gilles-Christ Olympio n'a pas pu obtenir un seul siège. Et donc, moi, je pense que les élections, là, permettent de redistribuer les cartes. Et au niveau des partis politiques, surtout les anciens partis politiques, il faut repenser à comment faire la politique pour que qu'on ne se retrouve pas un jour avec les 113 députés tous venus de Unir.
Mmh. Non, l'autre leçon même, c'est là où se trouve la crainte. Allez, parce que finalement, il faut que Unir ait des contradicteurs quand même. Parce que si finalement le seul parti sera là...
Oui, c'est son, ça peut être son souhait, mais si les autres n'ont pas gagné.
Malheureusement, que l'opposition... en tout cas, soit en train de faire son lit comme tel. Le décès, on dirait que c'est totalement programmé. Et que là, avec ce résultat aujourd'hui, j'estime que les uns et les autres, dans leur camp, au-delà du fait de parler de fraude massive, parce qu'un peu partout, c'est ce que tu entends dire. Mais au même moment, on est habitué, comme Sam l'a dit, pendant des décennies, à chaque fois qu'il y a élection, on ne vaut que la fraude massive. On nous a volé. Bon, ça dit que... Au-delà de tout,
mais il y a des vidéos, et oui, justement, Ali, il y a des vidéos qui ont circulé, on a vu un certain nombre de choses, et là, ça doit interpeller quand même.
Oui, moi, je voudrais demander quelque chose. Ça dit, quand tu dis, par exemple, que les délégués des partis d'opposition ont été chassés des bureaux de vote, bon, les responsables des partis politiques, ils ont quand même voté au Togo. Ils étaient à Lomé. Sinon, ils étaient aussi à l'intérieur. Mais à quel moment précis? C'est ça le problème. Il y a la période du contentieux électoral, certes. Mais moi, ce qui me dérange, moi, j'ai suivi l'après-vote de l'ANC, du leader de l'ANC. Il avait parlé de l'absence de mobilisation. Enfin, qu'il n'y avait pas de mobilisation au niveau des électeurs. Bon, à aucun moment, moi, quand on parle de fraude, maintenant, jusqu'à ce degré, avec cette vidéo, moi, je dis, c'est déjà vu, en fait. C'est pour dire qu'en 2020, en 2015, en 2010, à quel moment on n'a pas sorti ce genre d'éléments pour toujours dire qu'il y a eu telle fraude, il y a tel cas de fraude, il y a tel cas de fraude. C'est pour dire qu'à un moment, mettez-vous sur le terrain. Le travail, ça paie toujours. Et moi, j'estime que par rapport à ce que l'on a vu depuis, parce que c'est une élection, rappelez-vous, qui a été reportée. Mais pendant ce temps, UNI faisait en réalité sa campagne déjà. Et la campagne d'un parti politique, ce n'est pas attendre à 6 mois, à 3 mois des élections.
La les campagne, gens c'est étaient le moyen.
Mais de quel moyen vous parlez? Qui n'a pas de parents à Lomé? Vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas un village. Vous venez d'un quartier, d'une localité donnée. De temps en temps, il faut s'y rendre. Il faut s'intéresser aux associations de jeunes à l'université. Je crois que vous avez eu quand même à être responsable d'associations ou membre des associations. C'est le moment d'aller conduire avec les gens.
Quand Pascal parle de moi, on a vu Adi faire une percée à Dany.
Justement, moi je n'ai pas vu ce
Adi. Le candidat de Adi qui a fait une percée à Adi, il était au coude à coude presque avec Unir. Ils se sont
au coude à coude, vraiment.
Est-ce qu'on va parler de moyens là-bas?
Et ce monsieur qui le connaît?
Il faut être dans le contact permanent avec les
populations.
Pascal, vous ne me connaissez pas, vous n'allez pas me recevoir facilement chez vous. La vie est ainsi faite. Soit vous me recevez, vous serez réservé. C'est une question, ils l'ont déjà dit, je crois que c'est une question de contact régulier. Ce n'est pas que, je ne sais pas, vous allez faire le champ pour l'autre, ou je ne sais pas, vous l'achetez une voiture avant, non.
D'accord, Eric.
Au-delà de tout, Sam parlait tantôt des candidats qui ont été positionnés par Unir et par les oppositions. Mais à un certain moment, quand j'ai regardé les candidats de plusieurs partis d'opposition, je me suis demandé si ces gens-là ont déjà foulé là où on les envoie pour aller battre campagne. Certains disaient qu'il y avait même manque de cadre au niveau de certains partis politiques. Ça me pose le problème de formation même au niveau des partis politiques. Je crois qu'aujourd'hui, Unir va se frotter les mains. On a gagné les législatives, on a gagné les régionales. Mais qui va faire le contrepoids? Parce que tout ce que Unir va décider, allez, ça va passer.
Même pas la minorité de blocage.
Oui, justement, c'est ce que je dis. C'est pour ça, je dis, ce score-là doit nous interpeller tous. Est-ce que l'on fait toujours la politique sur la tête de nos aïeux? Et si on l'a fait, c'est de quelle manière? On a dit qu'il faut financer les partis politiques. Le financement des partis politiques doit servir à quoi? À la formation de ses membres. Il y a un parti politique qui a été créé récemment, ça ne fait même pas 5 ans, mais qui avait eu une très belle idée, celle d'organiser dans chaque quartier, sur toute l'étendue du territoire, des journées de réflexion sur la politique nationale. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ce parti n'a même pas démarré ce programme. Je crois que Unir, qui a gagné ces 2 scrutins-là, doit aussi se poser la question. Mais comme on le dit, quand on est en politique et que vous laissez le terrain, l'adversaire l'occupe entièrement. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, il faut une réflexion plus poussée. À chaque fois, vous savez, il ne suffit pas de dire « je suis parti d'opposition ». Vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs. Il y a des situations qui sont présentées à vous. Vous devez normalement en tirer conséquence pour les prochaines occasions. Mais j'ai comme l'impression que ça ne se passe pas ainsi. C'est ici, je demandais aux gens, ne boycottez pas le scrutin de 2018. Mais on m'a dit, le fichier électoral n'était pas bon, le code électoral n'était pas bon, il ne faut pas nous demander d'aller à ce scrutin-là pour ne rien récolter. Mais cette fois-ci, vous êtes allé, mais regardez les scores.
D'accord.
Est-ce que le fichier électoral est bon cette fois-ci? Est-ce que le code électoral est bon cette fois-ci? Voilà autant de questions qu'il faut se poser perpétuellement. Ce n'est pas une histoire d'élection et on va voir les leaders politiques défiler dans les médias pour faire passer des messages. Non, c'est un truc qu'il faut faire continuellement. Ça me parlait d'un truc aussi important dans les partis politiques. Lorsque nous parlons d'alternance au sommet de l'État, mais qu'est-ce que nous faisons chez nous? Si un jeune qui a commencé la politique en 2000 et jusqu'en 2024, il n'a pas pu accéder à un niveau
de décision.
De décision au sein de son parti politique, à quoi ça sert à ce jeune-là de faire de la politique?
D'accord.
Parce que la réalité, c'est que nous sommes en train de comprendre qu'il faut forcément avoir un cursus politique.
D'accord. Sam, est-ce que vous avez compris que parmi les nombreux indépendants que nous avons eus pour cette fois-ci, il n'y a aucun parmi eux quand même qui est sorti, qui a eu même un seul siège?
Oui, là aussi, c'est le problème. Moi, je pense que les indépendants, là, ils ont eu envie de se positionner pour ces élections parce que se référant au résultat de 2018...
Mais où, si, hein, pas pour les 2 élections...
Non, je parle des législatives.
Ah, d'accord. Beaucoup plus les législatives, parce qu'en 2018, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de listes indépendantes et des gens qu'on connaissait, des gens qui avaient à peine fini l'université, qui se cherchaient, était devenu mine de rien des députés. Et donc, ça a suscité une envie chez certains pour se dire que, bon, peut-être en se positionnant, personne ne sait, on peut avoir la chance de gagner. Ou bien les gens se sont dit que l'opposition peut, à la dernière minute, ne pas y aller. Mais, malheureusement, l'opposition était allée et Unir n'a rien fait au hasard pour cette fois-ci. C'est-à-dire que le score de 2024 est meilleur au score de 2018. C'est-à-dire qu'ils ont miné, ils ont maillé tout le territoire, et à tout, et Ali le Grand le disait, Eric aussi le disait, quand vous voyez les caravanes, c'était pareil aussi dans le Tchaoudjo où moi j'étais, c'est vrai qu'à Tchaoudjo aussi il y avait une liste indépendante qui cartonnait et sérieusement Solim, mais qui a fait une percée pour quelqu'un qui se positionne pour une première fois. Moi je pense qu'il est encouragé. Il a eu au-delà de 9000 voix. Oui, au-delà de 9000 voix, il lui fallait d'un tout petit peu pour décrocher un siège. Mmh. Pendant que Unir était à plus de 40 000 voix. Mmh. Or, il y avait 4 sièges à pouvoir. Donc moi, je pense que les autres indépendants, parce que l'indépendant dont il est question dans le Tchao Djor, c'est quelqu'un qui est en contact permanent avec les populations. Mmh. Il y allait régulièrement à la rentrée, il va dans les cahiers. Quand il y a une fête, il se déplace, il va, il est en contact avec les gens. Donc les gens ont... certains lui ont fait confiance en lui accordant leur voix. Maintenant, qu'en est-il des autres indépendants? Est-ce qu'ils ont connu le même parcours? Est-ce qu'ils ont procédé comme celui de Tchao Djor? Je n'en sais rien, mais je pense plutôt que c'est Unir qui a beaucoup plus travaillé.
Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que Sam disait. C'est qu'il faut voir, parmi ces indépendants-là, certains qui voulaient rentrer dans des partis politiques. Mais ils se disent... il n'y a pas espoir que je sois même positionné. Et donc, je préfère y aller tout seul, avec mes amis. Mais il y a une liste. On voulait interroger le responsable, mais à 11h, excusez-moi, je ne vais même pas dévoiler le...
Non, il ne faut même pas dire le candidat, non,
mais il ne faut pas dévoiler. À 11h... Oui. Le candidat était encore au lit. Et il nous disait, écoutez, hier, c'est à 5h, au petit matin, que je m'étais couché parce que je tenais des réunions avec les jeunes. On s'est posé la question. Si c'est pendant la campagne que tu vas prendre tout ce temps-là pour ne pas pouvoir dormir même, pour ne pas pouvoir... aller sur le terrain pendant que les autres sont en train de faire un travail de jour. Donc ça veut dire que c'est la nuit, tu vas encore aller travailler. Voilà autant de situations. C'est pour ça, c'est important que les gens soient en contact avec les populations avant. C'est ce que
je... D'accord. La question que je voudrais poser, c'est que il y a certains partis aujourd'hui qui sont devenus des partis extra-parlementaires. Quand on prend ces partis alors comme le NET, PDP, USC, ils sont devenus alors des partis extra-parlementaires. C'est quoi l'avenir quand même qui sera réservé à ces partis?
Non, Pascal, à mon humble avis, je ne parle pas à leur place. Je pense que tu auras l'occasion de leur poser la question. Mais ce que je pourrais dire, avoir l'allure que Unir a pris aujourd'hui, il serait difficile, difficile pour ces partis de revenir aussitôt. Oui, de revenir aussitôt, parce que j'ai bien observé les élections de 2020. J'ai bien analysé aussi les élections de 2018, dont les confrères venaient de parler. Pour cette année, chaque élection avec son conteste. Nous sommes à un conteste où le régime en place a voulu, en tout cas, une nouvelle constitution. Et donc, naturellement, les gens ont mis tous les moyens. Et ces moyens-là, c'est d'abord la ressource humaine. Et dans le cadre de cette ressource humaine, il y a eu tellement d'innovations, de nouvelles têtes qu'on a mis au devant de la scène, des personnalités reperchées qu'on ne voyait pas trop dans leur fief, qui se sont répilés quand même, qui ont battu campagne durant les 2 semaines, avec tous les moyens nécessaires. Pour dire que quoi? Pour dire que c'est une question de base électorale. Quand vous prenez ces partis, que d'aucuns qualifiaient de partis satellitaires de Unir, je me demande, au fond, ils doivent pouvoir interroger le travail qu'ils ont quand même su abattre sur le terrain. Parce qu'on les a vus pleinement sur les médias, surtout par rapport à la nouvelle constitution que la majorité, je veux dire UFC et PDP, ont plus ou moins essayé et soutenu, excepté le NET qui à un moment donné demandait clairement à ce que le test soit retiré. Et vous voyez, pendant que les gens prenaient leur temps à être sur les antennes, à ne parler que de la constitution, les gens étaient sur le terrain. Et n'oubliez pas, quand je parle de l'électorat, en réalité, et de la ressource humaine, en réalité, Unir est ce parti-là qui a vraiment les ressources adéquates. C'est-à-dire que la ressource humaine, pendant que certains sont ici en train de tenir le meeting, en masse, dans la même soirée, d'autres font le porte-à-porte. Les campagnes, ça se clôture tard dans la nuit. Les gens sont là. Moi, j'ai vu des gens qui sont là en groupe, jamais seuls, en groupe de 4 personnes, de 2 personnes, de 5 personnes, qui abordaient leurs frères et sœurs, leurs parents,
dans les fermes, dans les coins reculés, et même en ville.
Les indécis.
J'ai été témoin. C'est pour dire que, en réalité, le travail, c'est le travail constant sur le terrain qui a fait que on peut dire qu'une IRA a écrasé tout le monde, y compris même ces indépendants, quand vous quittez les partis, et ces partis qu'on qualifiait de satellites. Donc ces indépendants. Maintenant, quand je reviens sur un parti qui m'a beaucoup plu lors de la campagne aussi, mais qui, je ne dirais pas malheureusement, mais dont je n'ai pas entendu parler du tout. Vous prenez un parti, par exemple, je crois qu'ils étaient des indépendants bâtis.
Maintenant,
ils sont un parti. Il fallait voir leur campagne, leur caravane lors de la campagne. Attention, ils ont quand même cartonné. Je ne les ai pas trop vus à l'intérieur, en tout cas loin, mais dans la région maritime, mais j'ai vu quand même que les gars, c'est un parti bien assis. C'est ce que je peux dire.
Sauf que
mais
les élections
après sont les résultats, je ne peux plus dire que. Ils sont bien assis. Parce que
au niveau des régionales, ce sont des gens quand même qui ont payé quelque chose.
Mais probablement que le travail de fond
est quelque chose.
Probablement parce que c'est une question du rapport de force qui est venu malheureusement à emporter.
Ok, merci beaucoup. Alors, Eric, c'est vrai que nous parlions des enjeux alors de ces élections. Enjeux de ces élections, nous disons même d'ailleurs qu'avec ces élections, ça nous bascule même d'ailleurs dans la 5e République. Et parlant de 5e République, vous titrez à la une alors de votre journal ce matin, nouvelle constitution promulguée par Fonia Singbe, la 5e République est née. C'est ça?
Oui. Allait-il la promulguer? N'allait-il pas la promulguer? La question était là depuis pratiquement 2 semaines.
Mais le suspense était de mise quand même.
Oui, et tout à fait, parce que après la deuxième lecture de cette constitution par les députés à l'Assemblée nationale, on attendait la réaction du président Fonia Singbe. Et donc, hier, il a promulgué cette nouvelle constitution qui nous envoie tous dans la 5e République. On y est. Maintenant, c'est de savoir les enjeux de cette nouvelle République. C'est vrai que, à l'heure où nous parlons, personne ici n'a le test. La nouvelle constitution ne l'a pas encore. Mais c'est sûr que...
On l'aura bientôt.
Eric, avec cette nouvelle constitution, c'est quoi le statut du président Fonia Singbe aujourd'hui?
Tu sais, j'avais même écrit un édito, mais que je n'ai pas pu passer. C'était de dire que nous connaîtrons bientôt le successeur de Fonia Singbe.
Ah bon?
Oui, évidemment. Quand on rentre dans une nouvelle république, mais c'est qu'il y aura forcément un nouveau président.
Mais c'est peut-être, il peut succéder également à lui-même. Hein.
Oui, il va succéder à lui-même, mais par rapport à ce que nous avons eu comme fuite de cette nouvelle constitution... Je ne vois pas Fonia Singbe être encore le président de la République.
D'accord, ok.
Parce que son parti vient de remporter...
Les élections.
Les élections. Et par conséquent, il peut devenir le président du Conseil des ministres. Et donc, il y aura forcément... un nouveau président de la République.
Mais Eric quittait le poste de la présidence de la République pour être alors au poste alors de Premier ministre. Est-ce que déjà...
Non, les enjeux ne sont pas les mêmes.
Je suis d'accord que les enjeux ne sont pas les mêmes. Je suis parfaitement d'accord que les enjeux ne sont pas les mêmes, Eric.
Oui, mais qui est aujourd'hui le président du Conseil?
Oui, mais si nous prenons
le président du Conseil aura... les pleins pouvoirs pour diriger le pays comme si nous étions dans un régime présidentiel. Et donc, le président de la République n'aura pas autant de pouvoir dans l'exécutif comme le président du Conseil.
D'accord, ok. Et Sam, c'est vrai que au début même d'ailleurs de cette question de nouvelle constitution, il y a eu des polémiques, il y a eu des protestations, il y a eu des contestations bien sûr, surtout au niveau de l'opposition, mais on croirait tout simplement que le chien aboie, la caravane passe.
Non, c'est pas comme ça. Moi, je ne pense pas que c'est... Il n'y a pas eu d'entêtement, parce que souvenez-vous que la première mouture a été votée le 25 mars par les députés. Et alors, quand le texte a été envoyé au chef de l'État, il leur a renvoyé pour une deuxième lecture. Et comme si cela ne suffisait pas, il a demandé à l'Assemblée nationale d'organiser des tournées à l'intérieur du pays pour requérir l'assentiment de la majorité des Togolais. Je pense que les deux étapes là sont importantes à souligner parce que, justement, après la tournée des députés, au départ, le président de la République devrait être élu pour un mandat unique de 6 ans. Mais après la tournée, il y a eu un changement. Ce n'est plus 6 ans, mais c'est 4 ans renouvelables une fois. Donc ça veut dire que la tournée des députés a porté ses fruits. Et donc, ça veut dire que le président de la République est resté à l'écoute des populations. Et c'est justement pour ça qu'il a demandé à ce que le test soit d'abord élu et qu'ensuite, qu'il y ait une tournée qui soit organisée. Aujourd'hui, le test a été promulgué. Pour moi, ce n'était pas une surprise. Parce que déjà, du moment où les deux propositions, les deux suggestions ont été respectées par l'hémicycle, ce qui restait, c'était de promulguer la loi. Éric parlait de... Puisque tu lui as posé la question de savoir comment il peut laisser le poste de président pour aller être président du Conseil des ministres qui, sous d'autres cieux, connaît l'appellation de Premier ministre. Oui. Donc, je pense que nous sommes journalistes et on a eu vent de ce test-là qui a été promulgué pour dire que le président du Conseil des ministres c'est le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le parti majoritaire, c'est Unir. Son président, c'est le chef de l'État. Et en réalité, l'exécutif concentre un peu ses pouvoirs entre les mains du président du Conseil des ministres. Oui. Et donc, je crois que c'est ce rôle que pourrait jouer le chef de l'État si lui-même il ne décide pas de léguer ce pouvoir à une autre personne. En tout cas, c'est à lui que la loi fait obligation d'être le président du Conseil, puisque c'est son parti qui est arrivé à la tête du scrutin. Maintenant, le président de la République, il sera désigné par l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux qui constituera un congrès. Et je crois que c'est à l'issue de ça que le président sera désigné. Le président, il a les pouvoirs, certes, mais beaucoup plus honorifiques que les pouvoirs du président du Conseil.
Ali Legrand, vous avez été surpris par la promulgation de cette nouvelle constitution?
Non, moi je ne... Non, surpris, je ne le dirai pas. Mais j'avoue que je ne m'y attendais aussi pas trop. Parce que je m'y attendais.
Tu t'y attendais à quoi?
Jusqu'au 3 mai dernier, je m'y attendais. Mais après le 3 mai, je me disais peut-être que je ne suis pas dans les secrets du parti, du président Faure Gnassingbé. Mais je me disais peut-être qu'il remettra ça peut-être en 2025. Ou carrément, il va se reposer d'abord, se réjouir de la victoire de son parti aux élections. Après les résultats, et laisser les choses évoluer jusqu'en 2025, par exemple, avant de revenir sur ça. Ben, si bien que quand j'ai vu quand même la promulgation, je me suis dit, en tout cas, il a le pouvoir à tout moment, il pouvait agir à tout moment, et c'est ce qu'il a fait. C'est pour vous dire que non seulement je n'ai pas été surpris, mais aussi je ne m'y attendais pas trop. Jusqu'au vendredi dernier, oui, je m'y attendais, mais après, je ne savais pas qu'il allait agir aussi tôt, en début de semaine.
Mais est-ce que ce n'était pas déjà programmé?
Justement, est-ce que, vous l'avez bien dit, bon, lui seul a son agenda, en tout cas, c'est le président quand même de la République, il a son agenda, et lui seul sait à quel moment il a voulu agir. Vous savez, ces messieurs aussi, il y a beaucoup qui le disent, certains observateurs qui estiment que le président Gnassingbé Faure aime beaucoup surprendre. Et je pense peut-être, moi personnellement, je peux dire que peut-être j'ai été surpris par cette décision qui est arrivée hier. Et parce que pour moi, je me dis, il est dans l'euphorie peut-être de la fête, et de ses résultats, et peut-être il va laisser encore 2 semaines passer, le temps de prendre l'air un peu avec son entourage.
Vous n'avez pas promulgué la loi. Je crois qu'il y a un délai après lequel la loi même
effectivement
en vigueur. Donc, même s'il ne l'avait pas promulgué, il pouvait laisser.
Voilà.
Et puis après, ça se promulgue de soi. Mmh. Et il l'a fait.
Il y a même des mécanismes. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi... Bon, dans ce cas-là, on savait pertinemment qu'il n'est pas dans la logique de refus de promulguer. Mais, à supposer qu'il ne le faisait pas aussi pendant un temps, il y a un quota, la loi donne force à un quota de députés à l'Assemblée nationale, à un quota de députés de saisir la Cour constitutionnelle.
Quel député, justement?
Et ces députés-là, non, ça c'est carrément de manière générale.
Tout à fait.
Et ces députés-là, la décision
qui viendrait de la Cour constitutionnelle vaudra promulgation. C'est ce que je vous ai dit. Et comme Sam l'a dit, dans le cas d'espèce, il pouvait, moi personnellement, je voyais que bon, il serait dans l'euphorie de la fête, et puis après, ça va passer pendant un temps. Non, il a tout
Justement, Eric, est-ce qu'on peut penser que, allez, on commence vraiment ce processus-là. Nous avons vu la manière dont cela a commencé, hein. Ce processus a commencé, et à la fin, le chef de l'État qui dira, mais non, je ne promulgue pas.
Il l'a promulgué finalement.
Et finalement, il l'a promulgué.
Et donc, la question ne se pose plus.
Oui, mais je pense qu'il ne devrait pas promulguer. Depuis la première heure, il devrait la rejeter.
Cette question-là, on l'avait déjà évoquée en disant que si le chef de l'État n'était pas d'accord par rapport à cette nouvelle constitution, dès que l'Assemblée lui a envoyé le test, il l'aurait rejeté tout de suite. Mais il est dans la logique de faire passer les choses, parce que en réalité, ce qu'on avance comme argument aujourd'hui, c'est que nous puissions faire les choses autrement, parce que on estime que les élections présidentielles nous causent beaucoup plus de problèmes que les autres élections, et donc il fallait tout faire pour trouver une solution à ce problème-là qui nous divise beaucoup plus. Parce que réellement, vous avez vu ce qui s'est passé pendant cette campagne pour les législatives et les régionales. Mais c'était dans une très bonne ambiance. Par contre, si c'était les élections présidentielles, franchement, je me demande si ce serait également la même chose.
D'accord. Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons finir le débat ici. Et nous allons maintenant donner l'opportunité aussi à nos auditeurs qui sont à l'écoute. Ils sont nombreux même d'ailleurs à l'écoute. Nous allons leur donner l'opportunité de s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce mardi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75 pour s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir aujourd'hui au Club de la Presse de ce mardi. 22 21 33 114. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. 91, 36, 63, 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse pour s'expliquer ou enfin s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Nous avons parlé même d'ailleurs de cette sanction donnée au proviseur alors du lycée d'Alokwegbe. Et aussi, nous avons débattu des résultats obtenus, proclamés par la CENI pour les législatives et les régionales. Et par après, nous avons terminé avec la question de la promulgation de la nouvelle constitution. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75, 91, 36, 63, 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse, bien sûr, alors de ce mardi. Alors, c'est vrai, chers confrères, nous attendons toujours les auditeurs qui doivent nous appeler alors au 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Nous avons un premier auditeur. Allô?
Oui.
Pélé.
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez? Oui, Pélé, allez-y. Oui, le plateau aussi vous salue.
Bon, je pense que à la dernière minute, le président va promulguer la fameuse loi de l'Assemblée République. Je pense qu'il a bien dit. Et ce que je voulais dire, pour ce qui concerne la sanction qu'on avait donnée au premier, c'est parce qu'il y a un autre premier qui a trouvé un avocat. Donc, je pense que le pouvoir a constaté cet acte-là est noble. Un pouvoir qui vole dans les villes. Est-ce que les élèves vont faire? Nous sommes place. Et dans la revue, que vous qualifiez avant que vous étiez en train de travailler, il y a fait du sport déjà d'être construit avant de gouverner ce pays. Bon, on l'attend parce que je ne sais pas ce qui l'a empêché dans la 4e République quand il avait toutes les décisions dans la main. Il avait tout. Il n'y a rien qui manque. Seulement, il manque aujourd'hui le conseil des régionaux. Il attend, parce que c'est avec ça qu'il va bien gouverner. Il est en train de lancer le petit rural pour le moment où Patrick Talon continue le 4e échangeur. On nous montre le fond d'avion et le fond de
d'accord. Okay. Merci beaucoup, Pélé. Oui, merci beaucoup, Pélé. Nous avons eu du mal également à vous écouter. Hein. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse de ce mardi. 22 21 33 114 91 36 63 75.
Allô, bonjour, Canal
FM. Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
C'est quoi mon nom? Nestor. Oui.
Allez-y.
Voilà. Mon intervention, c'est par rapport aux sanctions imposées aux proviseurs de l'État dans le Kobe.
Oui, voilà.
Je pense que la scène internationale fait de nouveau pour voir que malgré toutes les supposées exploitations, manipulations de certaines personnes, les gens sont éclairés. Mais le proviseur a dû l'adopter sur le point que ça fait mal. Un autre exemple, la question du journaliste de France 24 à M. le ministre, je cite, pourquoi avoir fait voter cette réforme au clair de la Constitution, le Parlement n'était pas habilité à le faire, alors que le mandat des députés avait pris fin en décembre. Je le rappelle, du fait de report des élections, pourquoi avoir fait cette réforme au clair avant ce scrutin, M. le ministre? Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, c'est Monsieur Akakpo.
Monsieur Akakpo, vous nous appelez de quel quartier?
Depuis Atiégou.
Atiégou, allez-y.
Bon, s'il vous plaît, moi je ne comprends pas l'opposition. Je ne sais même pas pourquoi ils se plaignent. Unis à batailler, unis à gagner. Je vais dire que dans certains bureaux de vote même, les délégués de l'opposition n'existaient même pas. Et parmi même les membres de l'opposition, la majorité ont voté pour unir. Donc moi, je ne comprends pas l'opposition. Ils ont perdu, ils n'ont qu'à accepter les défaites. Et le Togo va avancer ses sous. Ils n'ont qu'à regarder comment est-ce que l'Union est en train de se débattre un peu partout dans le Togo. Excusez-moi, la dernière fois, ils ont demandé à M. Jean-Pierre Fabre, quel plan de sécurité tu as pour le Togo? Il n'a pas pu répondre parce qu'il est devenu fonctionnaire d'État. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et demain, ça pour dire que donc, on nous a volé, on nous a volé. Je vous remercie sur le plateau.
Merci beaucoup, Monsieur Akakpo, d'avoir intervenu. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez? Allô? Oui, c'est Basile. Oui, Basile. Oui, oui.
Ouais, je vous écoute.
Hein. Oui, allez-y.
Oui, je veux intervenir.
Oui, allez-y.
Non, pour vous dire que tout ça, c'est une petite logique, hein. On a commencé par prendre les députés de 91 à 113. On vient, on propose un changement de constitution. On n'en a pas le droit. Et puis, on organise une élection des assemblées régionales qu'on remporte de manière de score au risque. Vous voyez tout ça là. Pour dire que bon, plus seulement les échéances de 2025, les échéances de 2025 seulement, on est en train de suivre. Ce n'est rien qu'on fait. Merci.
Merci beaucoup, Basile. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse de ce mardi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. 22 21 33 114. Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Monsieur Gadou.
Oui, Monsieur Gadou, allez-y.
Allô.
Allô, je vous écoute, allez-y.
C'est M. Gado, je n'ai pas de radio avec moi.
Ah d'accord, allez-y, allez-y.
Bon, ce que moi je voulais dire, hein, l'équipe qui est avec vous aujourd'hui là n'est pas aveugle ni sourd, mais l'équipe ne veut pas écouter ni voir. Tout ce qui s'est passé au pays, ils n'ont pas vu ça. C'est comme ça qu'on gagne une élection. Mais c'est triste. Il faut mélanger cette équipe-là avec les enfants pour Djuro.
Mais monsieur Gado,
c'est autre là. Parce que cette équipe-là nous fait souffrir. Merci.
Merci, monsieur Gado. 22 21 33 114 91 36 63 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez facilement réagir au club de la presse lors de ce mardi. Un autre auditeur. Allô.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom
Philippe
c'est
de Zangueda.
Philippe Zangueda, allez-y.
Bon, moi je vais passer par votre canal pour donner une information à l'opposition. Premièrement, ils n'ont qu'à faire porte à porte pour demander à ces militants pourquoi ils n'ont pas voté pour eux. Et secondo, de boycotter, de ne pas aller à l'Assemblée nationale. On sait que c'est l'UNICEF qui nous gouverne au Togo. Merci.
Merci beaucoup, Philippe. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au club de la presse de ce mardi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô. Allô, bonjour.
Bonsoir monsieur.
Oui, bonsoir, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Votre nom c'est
Alphonse de Kota.
Alphonse de Kota. Alphonse, allez-y.
Ah, super, je voulais faire remarquer simplement que nous sommes tous des Togolais, nous l'ont les yeux bandés dans ce pays et on voit tout ce qui se passe. On n'a pas quelque chose, une vision devant quelque chose, une lueur d'espoir pour dire que demain il y aura mieux que ce qu'on a déjà vu. Tous ceux qui sont au plateau le savent que demain, bon, on ne voit rien venir encore. Tout ce que nous avons dans ce pays-là, vraiment, c'est décourageant. Regardez la décision, l'interview du proviseur là, et c'est la sanction qui s'en est suivie. Et nous sommes dans un pays. Eux-mêmes, là, il y a des vérités qu'ils ne peuvent pas dire à l'antenne. Ils ont peur d'être arrêtés après. Et c'est dans ce pays, nous sommes comme ça, et on dit que bon, tout va bien. Bon, en tout cas, et ce que nous allons remarquer, c'est que la rage, l'envie qui était dans nos parents avant, là, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on a perdu cette envie-là. Nos idées sont ailleurs. Comment trouver le minimum vital pour chaque jour? C'est ce qui nous préoccupe tant. Et on ne le voit pas. Et nos idées, c'est trouver un moyen d'aller ailleurs, d'aller se refaire dans un autre pays, pas de rester ici. C'est pourquoi vous allez voir qu'on n'était pas sorti pour aller voter. Moi, le jour du vote, même moi, j'étais à l'intérieur. Bon, je n'ai pas vu l'affluence, ce qu'on dit. On a proclamé, moi, la préfecture, là où j'étais, là, on a dit 94,5, là. Bon, moi, j'étais dans cette rue. Moi, je n'ai pas vu l'engouement comme ça, le jour-là. Et bon, on dit, bon, les gens sont sortis, mais... Hein. Et prions que Dieu fasse que ça aille mieux.
D'accord, c'est ok. Merci beaucoup, Alphonse. Je pense que c'est le mieux vraiment qu'on peut souhaiter pour notre pays. Vous l'avez dit, 22 21 33 114. Allô.
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais très bien, chez vous.
Oui, ça va aussi. Votre nom, c'est
Monsieur Lazare.
Monsieur Lazare.
Oui.
Allez-y.
Bon, je remercie vos journalistes qui sont avec nous ce matin. Merci pour leur analyse. Je trouve que ça est facile. Dans un sens unique, mais n'empêche. Comme le soir tiré à propos de cette élection, je voulais dire à l'opposition que ça prouve à l'usage que personne ne peut contrôler son propre parti ou bien son parti seul pour apporter ou bien apporter le changement dans le pays. Donc ils doivent collaborer. La première leçon. La deuxième leçon, quand vous sentez que vous êtes sur le terrain depuis. Dans la pré-campagne, je dis toujours quand j'appelle pour qu'on ait une compétition, il faut que les règles du jeu soient équitables. Il faut que les règles du jeu soient équitables. Lorsque vous appelez vos adversaires de tenir même des petites réunions dans des petites formes, comment est-ce que vous dites que l'unir ratifie là lorsque vous postez en plus? Tout cela, ça me laisse pas, vous n'êtes pas autour de vous, journalistes. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'élection régionale en poche, vous avez l'élection législative en poche, et après tant d'années, vous avez tout là avec vous, mais vous avez échangé. Et comme vous dites que vous êtes unis, un parti très loin, ratifié là, avec les araignées, vous pouvez voir des araignées dans le pays, et même dans la capitale, avec une finitude, vous n'allez pas sortir de nos quartiers pour aller sur le bouton. En quoi unir, faire quoi dans ce pays? Donc, je vous en prie, faites des analyses.
D'accord, Lazare, merci beaucoup. Alors, merci, je pense quand même qu'on ne va pas s'ériger quand même en donneur de leçons, puisque notre émission, le principe, c'est que vous vous appelez pour s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Chacun sa manière d'analyser les sujets, ça c'est clair. Je pense que Lazare, c'est le dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission de ce mardi. Et donc, nous revenons en plateau, chers confrères. Ali, vous avez écouté les uns et les autres hein, se prononcer sur l'actualité, bien sûr. Et vous avez vu leur manière également d'analyser l'actualité ou de faire le débat avec nous. Alors, c'est quoi votre réaction?
Non, moi, je dirais un sincère merci à tous ceux qui ont pu rentrer en antenne, qui ont pu donner leur point de vue par rapport à l'émission de ce jour. Vous savez, quand vous faites quelque chose et que vous n'avez pas de contradicteur aussi, ce n'est pas bien. Quand vous n'avez pas de suggestion...
Allez-y.
Quand vous n'avez pas de suggestion non plus, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, moi, j'estime que c'est de bonne guerre. Nous sommes tous togolais. Il faut que chacun puisse avoir son opinion. Et voilà, on vient de sortir des élections. C'est normal que chacun puisse y aller de son analyse. Et donc, chacun apprécie sa manière de faire. Particulièrement, il y a un auditeur qui a appelé de Zanguera, si je ne me trompe pas, qui disait que, que certains responsables d'opposition puissent quand même faire le porte-à-porte d'une manière ou d'une autre pour essayer de voir qu'est-ce qui a été à l'origine de leur débâcle. Et même de ne pas siéger. Bon, c'est pour dire qu'il faut se lever tôt. Lorsque vous voulez être président de la République, en tout cas, ou c'est pas député, dans 2 ans, dans 3 ans, ce n'est pas à quelques mois de l'échéance qu'il faut se lever pour construire sa liste, pour dire qu'on est indépendant, ou on est parti politique et on va sur le terrain. Ce n'est pas à 2 mois ou à 2 semaines. Donc, bref, j'ai plutôt apprécié les interventions des uns des autres. Malgré que certains s'érigent en donneurs de leçons, comme si nous autres, on ne devait pas donner notre opinion sur l'antenne et qu'on devait seulement copier ou bien dire ce que d'autres veulent entendre, même si c'est mauvais.
D'accord. Voilà. Eric ?
Je suis vraiment désolé pour nos auditeurs qui cherchent toujours à écouter ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas là pour ça, hein. Moi, je le dis toujours, quelqu'un qui dit d'abord que eux, ils ne sont pas allés voter parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien devant. Comment vous n'êtes pas allés voter et vous dites que nous n'avons rien vu, nous n'avons rien écouté, ça veut dire que Unir n'a pas gagné. Mais vous n'êtes pas allés voter. Ne venez pas nous dire à nous de dire que Unir n'a pas gagné. Mais nous, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est ce que nous avons dit. Maintenant, M. Garot, que je considère beaucoup, il m'a étonné. Parce que il pense que tout le monde doit avoir la même idée, la même pensée que lui. Il estime même qu'il fallait faire venir d'autres confrères pour ce débat-là. Je suis vraiment désolé, M. Gallo. Aujourd'hui, vous m'avez montré quand même une certaine bassesse, ce que je n'imaginais pas de vous depuis que vous appeliez dans cette émission. On a commencé depuis longtemps avec vous, M. Gallo. Mais il ne faut pas faire des choses comme ça. Ne cherchez pas à confronter des confrères. Nous sommes des confrères.
Tout à fait.
Après ces émissions-là, on se retrouve entre nous, on discute. Et c'est la même chose que pour les politiciens, il ne faut pas l'oublier. Mais je voudrais dire, quelqu'un qui a dit que le débat a été au sens unique, je ne le comprends pas. On a dit ici que ce score-là nous interroge tous. Nous devons tous avoir cette pensée-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on a eu ce score-là? Et donc, à partir de ce moment-là, chacun doit réfléchir pour savoir ce qu'on doit faire sur le terrain. Et on a même dit que si on va à l'Assemblée, on va au Sénat, et il n'y a pas d'opposition, on pense que le débat sera à sens unique.
D'accord, voilà. Merci beaucoup Eric. Sam ?
Non, moi je pense que tous ceux qui ont appelé, je les remercie. Il y a eu des gens qui ont apprécié, d'autres qui n'ont pas apprécié. C'est ça la démocratie.
Oui.
On ne peut pas obliger tout le monde à s'aligner sur les analyses que nous faisons. Mais en même temps, rappeler que l'opposition doit tirer leçon de ce double scrutin. Parce qu'il y a eu un auditeur qui a parlé des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote, que ailleurs, ils n'étaient même pas présents. Au total, on a plus de 14 000 bureaux de vote. Alors, c'est une question de sensibilisation, pas question de moyens. Parce que si un parti travaille assez, sensibilise les militants, on peut facilement avoir au moins la moitié de jeunes qui sont volontaires pour aller superviser le scrutin. Quand nous prenons par exemple la présence de ces partis-là sur l'ensemble du pays, je prends l'exemple de l'ANC qui n'a pas positionné justement Uruapo Tchagnao dans Tchaoudjo parce qu'il s'est séparé de Uruapo Tchagnao. Or, Uruapo Tchagnao, c'est ce militant par qui plusieurs autres militants à Tchaoudjo se reconnaissent. Aujourd'hui, Uruapo Tchagnao, il se retrouve à aller sur une autre liste où il n'a pas de la valeur. Et finalement, ça fait que l'ANC même a creusé sa propre tombe dans Tchaoudjo et s'est empêché d'avoir au moins un siège.
D'accord.
Donc ça fait partie des stratégies sur lesquelles l'opposition peut travailler pour qu'à l'avenir, elle puisse vraiment
relever. Ça, merci beaucoup. Sam, je reste avec vous pour la note de fin de mission, rapidement.
Oui, s'il faut donner une note, moi je pense que ça doit être une note minable pour les partis.
C'est combien déjà?
Bon, 3 sur 20, sur 10,
c'est 10,
sur 10 pour les oppositions, les partis d'opposition parlementaire qui sont aujourd'hui, qui ont aujourd'hui la queue entre les pattes.
D'accord.
Parce qu'ils n'ont pas pu vraiment...
Oh, ok, et Ali Le Grand?
Non, je crois que...
Non, votre note de fin d'émission.
Oui, d'accord. Je n'ai pas de note,
oui.
Mais c'est je bon. Demande...
C'est bon. Eric, votre note.
Je peux donner... 8 sur 10 à l'ARCEP, qui nous permet aujourd'hui de transférer un numéro que nous avons d'un opérateur mobile à un autre.
Ça s'appelle la portabilité.
La portabilité. Et donc, c'est très important dans les télécommunications.
D'accord. Merci beaucoup, Eric Johnson, d'être passé dans cette émission. Sam Diabo, merci. Ali Le Grand, merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi, puisque vous participez ainsi au débat. Et c'est en quelque sorte à la vie démocratique, bien sûr, alors de notre pays. Thomas était d'Atelier à assurer la mise en onde. Gérard Akoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Plume nègre, plume nègre. Je rêve d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciels et des carnivaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays fort. Et juste un pays, écoliers étudieront en métro, les veilleront au boulot en hélico. Et pour vie, y'a beau avec vie, caporal Louis Homme, en featuring avec le Saint-Esprit. Et voilà, c'est ta musique. Please, God, never stop my music. I have a dream. I say. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau, avec des gratte-ciels, des routes et des caniveaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays où le plus pauvre ira à moto, le moins pauvre à deux chevaux. Un pays où les villages les plus reculés aussi ont accès à l'électricité, à l'eau, avec des écoles et des hôpitaux. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays où écoliers et étudiants iront au cours en métro. Les employés, eux iront au boulot en hélico. Ah oui, j'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays fort, enviable et costaud. Car demain, il fera beau sur les grandes routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur les routes. Demain, I say I have a dream.
Demain, il fera beau sur les routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Tous les oiseaux chanteront sur les chemins.